Bonjour Nathalie Arthaud.
Bonjour.
Vous êtes candidate à la présidentielle sous l'étiquette Lutte ouvrière. On va commencer d'abord par les soubresauts à gauche, on va parler comme ça. Benoît Hamon proposait une candidature unique avec Jean-Luc Mélenchon. Finalement, ça tombe à l'eau. Ce matin, vous dites tant mieux ?
Non, moi je regarde ça de très loin. Hein. Ça, c'est les péripéties politiciennes, c'est effectivement la gauche gouvernementale qui a du mal à se mettre en rang. En quelque sorte, bon, on voit que effectivement entre Hamon et Mélenchon, les programmes sont très très similaires. Bon, la réalité, c'est qu'il y a deux coqs dans le poulailler.
Voilà. Deux coqs dans le poulailler, ouais. Qui sont les poules?
Mais écoutez, moi, ce que je tiens à dire effectivement aux électeurs, c'est que tous ces programmes qu'on nous brandit, toutes ces promesses qu'on nous fait le temps d'une campagne, elles ont toujours été reniées parce que une fois arrivé au pouvoir, eh bien, au-dessus du président de la République, de l'équipe gouvernementale, il y a ces grandes puissances de l'industrie, ces grands groupes capitalistes de l'industrie, de la banque, qui arrivent et qui dictent leur politique, leur volonté. Et ce qu'on a toujours vu, c'est que ces gouvernements, même quand ils se prétendaient de gauche ou socialistes, se sont toujours couchés face aux volontés du grand patronat.
Alors, on va voir un petit peu ce qui se dessine autour de celui qui, pour l'instant, fait la course en tête au premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron. Vous qui êtes professeur d'économie dans un lycée, on y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce que vous dites à vos élèves par rapport au mouvement En Marche, qu'il est en train d'avaler tous les concurrents du secteur?
Non, mais Macron surfe sur le rejet de tous ceux qui ont participé au pouvoir.
C'est pas le seul.
Non, il n'est pas le seul, mais c'est surtout ça son point fort, parce que effectivement, bon, bah, son programme, on l'a vu, il navigue un petit peu à vue. Bon, mais surtout, voilà, Macron, moi, on a quand même en tête qu'il a gouverné 2 ans. Hein. En 2 ans, il a quand même été celui qui a initié 2 lois anti-ouvrières. Ça a été la loi qui porte son nom, la loi Macron, qui a généralisé le travail du dimanche et qui impose aujourd'hui, y compris à des femmes qui doivent jongler avec leur vie de famille et le boulot, bien des sacrifices.
Ça ne s'est pas imposé partout dans tous les secteurs. On voit que ça met du temps par ailleurs. Mais...
Oui, mais en même temps, il y a une pression à cela. Et c'est ce qui va se passer dans beaucoup d'entreprises, un espèce de chantage, où, y compris à l'embauche. Est-ce que vous êtes prêt ou pas à travailler le dimanche ? Qu'est-ce que vous répondez quand vous voulez absolument le boulot, quand vous en êtes, voilà, vous en avez besoin, parce que tout le monde a besoin de gagner sa croûte et de trouver du boulot. Et puis bon, je pense aussi à la deuxième loi, la loi El Khomri, qui porte pas son nom, mais qui voulait encore plus dur.
Donc l'homme qui détricote le social en France, c'est ça?
Ah, c'est clairement celui qui porte aussi le programme du grand patronat. D'ailleurs, Monsieur Gattaz, le président du MEDEF, a souligné que Macron, ça lui conviendrait tout à fait.
Oui, même s'il soutient plutôt le programme de François Fillon. Vous savez ce qu'on va faire, Nathalie Arthaud? Il y a quand même 11 candidats. On aimerait voir un petit peu plus clair sur vos concurrents, entre guillemets. Vous allez me dire, parmi vos concurrents de gauche, qui est vraiment de gauche? On commence avec Benoît Hamon.
Non, mais écoutez, c'est très simple. Il y a tous ceux qui ont gouverné, tous ceux qui se situent dans le cadre de cet ordre social capitaliste, tous ceux qui considèrent qu'on ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire sans, justement, ces grands groupes capitalistes.
Mais est-ce que Benoît Hamon est de gauche?
Leur loi. Donc moi, tout cela, je les mets dans le camp adversaire.
C'est le camp adversaire qui n'est pas la vraie gauche, pour résumer.
Travailleurs. Pour moi, il ne faut plus raisonner en termes de gauche et de droite. Ça a été la grande escroquerie. Ça a été la grande escroquerie que de faire croire aux classes populaires, à des ouvriers, aux chômeurs qui voulaient changer leur vie, qu'ils étaient représentés par tous ces politiciens qui se mettaient l'étiquette de gauche. Ça a été la grande escroquerie. Donc pour moi, c'est qui est dans le camp des travailleurs et qui ne l'est pas.
Donc Benoît Hamon n'est pas dans le camp des travailleurs. Jean-Luc Mélenchon?
Mais Jean-Luc Mélenchon ne représentera pas non plus, si jamais il était élu par miracle, les intérêts des travailleurs pour la simple et bonne raison qu'il ne veut pas faire payer le grand patronat. Moi, je l'ai entendu, y compris expliquer, qu'il voulait bien augmenter le SMIC, mais qu'il fallait absolument pas que ça soit payé par le patronat.
C'est d'ailleurs pas comme ça qu'il a présenté les choses. Mais...
Oui, mais il explique tout de suite après que pour compenser, je baisse l'impôt sur les sociétés. De 33% à 25%. Pour compenser.
Donc de l'esbrouf.
Pour compenser, je remplis les carnets de commandes. Donc effectivement, encore une fois, en tout cas, il ne dit pas que On peut tourner les problèmes de toutes les façons que l'on veut, mais si l'on n'est pas prêt aujourd'hui à faire payer la grande bourgeoisie qui prospère, ce grand capital, si on n'est pas prêt à lui imposer des contraintes, si on n'est pas prêt à se mettre au travers de cette politique qui consiste systématiquement, dans tous les grands groupes quand même, à licencier, restructurer, augmenter les cadences, à augmenter le temps de travail, aggraver l'exploitation, eh bien on se voue à renier le peu qu'on a promis aux travailleurs. C'est ça la réalité.
Alors les travailleurs.
Parce que vous voyez, moi, ce que j'observe, c'est que, bon, ils ont toutes leurs nuances de gauche, toutes leurs nuances de gauche. Mais justement, il n'y en a pas un qui dénonce la dictature de cette classe capitaliste sur la vie de millions de femmes et
d'hommes. Alors, on va rentrer justement dans le détail.
Pour moi, c'est ça le problème fondamental.
Une proposition que vous faites, il y a beaucoup de candidats qui évoquent le taux de chômage qui serait celui de la France s'ils arrivaient à l'Élysée. 7%, 6%, certains vont jusqu'à 5%. Et vous arrivez à 0%. Vous êtes professeur d'économie ? Expliquez-moi.
Non. Moi, je ne fais pas des promesses électorales.
Ah, c'est écrit noir sur blanc, 0%.
Non, mais, ah, mais c'est évidemment l'objectif. Mais moi, je me bats pour cela. Une société qui condamne une fraction, mais de plus en plus importante, de femmes et d'hommes au chômage, à l'inactivité, donc à la marginalisation, à la misère, c'est ça la réalité, n'a pas d'avenir.
Une
société qui condamne 25% de sa jeunesse dans certains quartiers à tenir les murs, à ne pas pouvoir prendre part à la société. C'est une société qui est condamnée.
Mais qu'est-ce que vous imposez dans ces cas-là au patron, pour bien comprendre ?
Mon objectif, clairement, c'est qu'il n'y ait pas un seul chômeur.
Donc on interdit les licenciements ?
Ben, il faut commencer par arrêter l'hémorragie, voilà, tout simplement.
Et on fait comment ?
Eh bien, d'abord, on interdit donc les suppressions d'emplois, les licenciements, à commencer par ces grands groupes. Parce que ce qui est fou, c'est que tous nous expliquent qu'ils veulent combattre le chômage. Mais il n'y en a pas un pour dire qu'on ne devrait pas autoriser la BNP Paribas, qui a fait 7,7 milliards de profits, a supprimé des emplois. Elle en supprime 700. Elle va fermer des agences. Qu'on ne devrait pas autoriser Peugeot à supprimer des emplois.
Mais pour en ouvrir, pour parler des banques, pour en ouvrir également, en tout cas ouvrir des emplois, en ligne.
Mais le solde est toujours négatif. Ils suppriment des emplois, tous ces groupes. Vous prenez ensuite les groupes publics, prenez la SNCF, prenez la Poste. C'est des milliers d'emplois chaque année qui
la
sont
SNCF
supprimés.
La SNCF surendettée en milliards.
Et est-ce que nous n'avons pas besoin de développer les transports en commun ? Est-ce que nous avons, dans la région parisienne, il y a des trains qui sont annulés tous les jours parce qu'il manque des conducteurs de train. Donc il faut effectivement que l'argent qui existe dans la société, qui aujourd'hui accaparé, accumulé à un pôle, dans les mains effectivement d'une minorité de très très riches, de multimilliardaires, et cet argent-là aujourd'hui il est gâché, il est gaspillé dans la spéculation, dans des caprices de riches. Eh bien moi je considère que cet argent, oui, devrait être utilisé pour créer ces emplois qui manquent dans les transports, mais dans l'éducation aussi, dans la santé. Donc il y aurait beaucoup d'emplois à créer, il y a beaucoup de besoins à satisfaire dans la société.
Des emplois à créer. Alors là, on va voir ce que vous pensez des conséquences du Brexit. Parce que la maire de Paris, mais aussi Valérie Pécresse, la patronne de région, disent qu'il pourrait y avoir 10 000 emplois qui arriveraient en France en raison du Brexit, et notamment le secteur bancaire. Alors est-ce que oui ou non, si vous êtes à l'Élysée, vous dites oui, venez, messieurs, dames, les traders de Londres, venez vous installer à la Défense.
Non mais vous voyez, toute leur politique, c'est d'attendre, de croiser les doigts et d'espérer que les banques prennent la décision, alors là, cette fois-ci, de quitter donc la City et de venir s'installer
à
Paris.
Mais si vous êtes en fonction, vous faites quoi ? Parce que c'est comme ça qu'on arrive à comprendre aussi les idées des candidats.
Tout à fait. Mais toute leur politique, elle consiste à être dépendant des décisions prises dans des conseils d'administration de grandes banques et de grands groupes industriels. Moi, ce que je pense, c'est que les travailleurs doivent dire voilà nos besoins et voilà ce que nous imposons, effectivement, à ces grands groupes. On ne doit pas les laisser décider tout seuls dans leur coin. Parce que quand ils décident tout seuls dans leur coin, c'est uniquement en fonction de leurs intérêts égoïstes. Et ce n'est jamais en fonction de l'intérêt collectif. Donc moi, je suis effectivement pour qu'on parte des besoins de la population, de se répartir le travail, de soulager ceux qui sont au boulot et qui en ont par-dessus la tête parce que les cadences sont infernales, les gens courent, mais dans le privé, dans le public, de partout. Donc, effectivement, et imposer un certain nombre de choses à ces grands groupes en allant, y compris, voir l'argent, les bénéfices qui sont réalisés, où est-ce qu'ils partent, qu'est-ce qui est investi, quelles sont les décisions qui sont prises.
Et donc là, on a compris, là, priorité aux travailleurs, mais pas de tapis rouge pour les traders. Autre
ça
question.
Ça pourrait être un slogan, absolument.
Également, moi, je n'écris pas vos slogans, évidemment, mais je résume. Votre proposition sur le cannabis. Alors là, je pense que c'est les lycéens qui doivent adorer, peut-être moins leurs parents. Vous dites, oui, dépénalisons le cannabis. Pour quel intérêt ?
Alors, d'abord, moi, je dis aux jeunes, ne cherchez pas des paradis artificiels.
Non, vous ne poussez pas à la consommation, on est bien d'accord.
Non, mais je dis aux jeunes, cette société, il faut la changer. Hein, ne cherchez
mais ça,
pas,
on peut dire ça pour tout,
ne cherchez
mais là,
pas
concernant le cannabis.
À l'oublier, à vous assommer, voilà, prenez part.
Mais sur
à,
la dépénalisation.
Essayez de la changer. Et maintenant, je constate effectivement que la pénalisation, elle n'a absolument pas conduit à réduire la consommation du cannabis.
Et la consommation augmente en
France. Donc je pense que c'est complètement inefficace. Donc je suis pour la dépénalisation. Mmh. Voilà, maintenant, je suis assez sceptique. Hein, pour l'instant, il n'y a pas non plus de preuves que la légalisation pourrait voilà, inverser la situation. Donc voilà, moi je crois que ce qui manque justement dans cette société, c'est y compris un idéal, c'est aussi une force sociale qui se soulève et qui met en avant des intérêts communs dans lesquels les jeunes, les plus âgés pourraient se reconnaître. Hein, je pense à ce qui se passe aujourd'hui en Guyane, cet élan de la population où il y a effectivement eh bien, des chômeurs, des salariés du privé, du public, où il y a des femmes au chômage, des mères de famille qui s'engagent dans cet élan-là et qui ont envie effectivement de dire bah, voilà nos besoins, voilà ce qu'on pourrait construire, voilà ce qu'on devrait faire, pourquoi on devrait se battre. Eh bien, moi, c'est pour ça que je milite. Et dans cette élection d'ailleurs, moi je ne joue pas le jeu électoral, je ne dis pas voter pour moi et puis voilà. Non, je dis il faut que les travailleurs se lèvent.
Et d'ailleurs, vous dites à propos de votre candidature, bah, je ne suis pas là pour gagner. Mais c'est une candidature de témoignage.
Je suis là pour gagner. Je suis là pour gagner.
Vous n'avez pas toujours dit ça ces derniers jours.
Je suis là pour gagner l'intelligence, la conscience, les cœurs des travailleurs.
Ça ne fait pas beaucoup pour une élection présidentielle.
Et pour justement qu'ils ne se laissent pas abuser par ce spectacle, cette comédie, où à chaque fois on nous brandit des promesses et on va les entendre. Ah oui, alors les médicaments, on n'aura plus à payer pour les lunettes, on aura la retraite à tel âge, etc. Mais là, ils vont nous en brandir des promesses. Mais une fois au pouvoir. Eh bien, encore une fois, ils vont conserver l'argent, toujours, pour arroser le grand patronat. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc moi, j'appelle effectivement un vote de conscience à ce que les travailleurs disent, ben, voilà, on existe, on est là, on a des intérêts, on a notre combat à mener et qu'on se regroupe.
Nathalie Arthaud, vous faites partie avec, je crois, Philippe Poutou, des deux seuls candidats qui continuaient à travailler pendant la campagne. Vous êtes professeur, je le disais, dans un lycée, professeur d'économie. 12 interviews aujourd'hui et demain, combien d'heures de cours ?
Demain, je travaille. Oui, je travaille 4 heures. Voilà.
Normalement, vous arrivez à peu près à concilier les deux.
Ça devient un peu difficile là, dans la dernière ligne droite. Mais en tout cas,
mais vous corrigez les copies le soir et vous écrivez aussi vos meetings.
Là, pour l'instant, les copies, elles attendent.
Ouais.
Mais c'est ma vie. Voilà, moi, je ne fais pas la politique pour gagner de l'argent ou pour faire carrière. Hein, pour moi, j'appelle voilà, les travailleurs justement à s'immiscer. Et à dire leurs besoins et à être conscient que c'est d'eux que les choses dépendent, de leur force collective, de leurs intérêts, de leur conscience et de leur volonté de se battre, de ne pas se laisser faire. Donc voilà, je travaille et en même temps, effectivement, je me bats sur le terrain politique.
Nathalie Arthaud, la question off, mais devant les caméras, hein. Attention. On avait un petit jingle. Ben voilà, je vais le faire moi-même. Tadam. La question off avec justement un rendez-vous important la semaine prochaine. Vous serez face à 10 candidats. C'est un nouveau débat télé. Parlez franchement. Vous avez les 10 face à vous. Quel est celui ou celle qui vous fait le plus peur ?
Ah non, mais moi, ils ne me font pas peur.
Voilà. Aucun.
Non, ils ne me font absolument pas peur du tout. Voilà, écoutez, ils font...
Vous les appelez les pantins, la plupart d'entre eux.
Mais c'est ça, ils roulent les mécaniques. Hein. Mais regardez même Trump. Hein, Trump, avec son beau programme, etc., il arrive au pouvoir et craque. Il est obligé, effectivement, finalement, de remiser.
Donc c'est du mépris. C'est du mépris que vous avez pour...
Non, c'est pas du mépris, mais c'est simplement que je suis consciente que, effectivement, il y a ces politiciens-là qui prétendent gouverner, incarner l'État, enfin tout ce que vous voulez, la représentation du peuple. Et puis, au-dessus d'eux, il y a les puissances de l'argent. Et il y a cette loi du capitalisme, du profit, de la rentabilité qui s'impose en réalité à eux. Ils font croire que ça n'existe pas. Hein, et la réalité, c'est que c'est elle qui finit toujours effectivement par gagner. Moi, je suis consciente de cela et je pense que c'est ça qu'il faut renverser. Cela sera possible s'il y a à nouveau des mobilisations puissantes, des levées en masse. Et moi, c'est ma politique, oui, qu'on renoue avec ces périodes, mai 68, les périodes révolutionnaires.
Merci beaucoup, Nathalie Arthaud, d'être venue nous voir, candidate à la présidentielle pour Lutte ouvrière.
Merci.